Monsieur Vermette, nous sommes aujourd'hui le 8 mars 1973 chez monsieur, votre premier nom, j'ai oublié votre premier nom.
Auguste
Vermette. Monsieur Vermette, quel âge avez-vous?
J'ai 82 ans.
Et puis où êtes-vous né?
Je suis né à Saint-Pierre.
Vous avez passé une grande partie, presque toute la plus grande partie de votre vie à Saint-Pierre. Hein?
Ah oui, monsieur, je suis né là, j'ai resté là depuis la naissance jusqu'à... Je suis venu en 91, puis je me suis envenu en ville, j'étais enceint en 64.
Vous étiez sur la ferme, j'étais un fermier.
Oh, j'étais fermier.
Cette ferme-là venait de vos parents?
Mes parents, oui. Ça venait de ma mère. C'était la famille Thoron, on avait pris du terrain, là. On avait pris un mille, ils appelaient ça le mille des Thoron.
Et puis comme de raison, vous avez été à l'école à Saint-Pierre?
Ah, j'étais là, oui, j'étais à l'école à Saint-Pierre.
Jusqu'à quel grade?
Ah, dans le temps, on disait la division, j'étais rendu à la 6e division. On appelle ça les grades, c'était tout en français, c'était la division. J'ai commencé à peu près à 6 ans, puis j'ai fini à 13 ans.
Dans ce temps-là, c'était-tu des sœurs qui enseignaient?
Non, on n'allait pas, nous autres, à l'école du village. On allait à l'école qu'on appelait... Saint-Pierre-Nord, c'était au nord du village, à peu près 4000 au nord du village. Ils ont formé un autre arrondissement d'école, là, à 4000 au nord du village Saint-Pierre. C'était cette petite école-là, petite école de campagne que j'étais.
Aviez-vous votre terre, c'était un lot de rivière, je suppose, hein?
Oui, c'était un lot de rivière.
Ça. Comment c'était grand, ça?
Ça avait 100, sur les patentes, il disait 196 acres, plus ou moins. C'était supposé être 200, mais ils étaient au 196, plus ou moins.
Et puis pour payer les taxes, c'était-tu 180 autres, plus ou moins?
Ah oui, c'était pareil, plus ou moins, plus ou moins.
Quel âge avez-vous quand vous êtes marié?
La première fois que je me suis marié, j'avais 22 ans.
Une famille avec votre première femme?
Non, j'ai pas eu d'enfant avec ma première femme, j'ai été marié rien que 3 ans.
Et puis la deuxième?
La deuxième, par exemple, là, j'ai été marié plus longtemps. Je me suis marié en 1918, la deuxième fois. Et là, j'ai eu 10 enfants. 5 filles, 5 gars.
Et puis la troisième femme, combien d'enfants?
Ah, la troisième femme, ben, c'était plus... La machine était plus bonne.
Vous m'aviez raconté une fois... À propos des marchés que vous aviez fait, un emprunt sur votre terre, quelque chose. Pouvez-vous nous raconter ça?
Oui, c'était mon père, ça, qui avait fait un emprunt. Ils avaient emprunté 300 piastres du crédit foncier. Et puis, ils avaient 20 ans pour remettre ces 200 piastres-là à 30 piastres par année. Comme ça, ils se trouvaient à payer 600 piastres pour le 300 piastres qu'ils avaient emprunté. Ils payaient deux paiements. Un paiement au printemps de 15 piastres, puis un paiement à l'automne de 15 piastres. Ça comprenait l'intérêt, puis tout ça. Et puis, ils avaient 20 ans pour payer. Ils étaient 4 cultivateurs, là, qu'on va emprunter sur le crédit foncier. Il y en a 2 qu'ils ont pris à un terme plus court, mais ils faisaient des paiements plus forts. Alors, ils faisaient des paiements assez forts que ces deux-là n'ont pas pu rencontrer le paiement et ont perdu le terre. Puis mon père, puis mon oncle, ont gardé le terre. Les paiements étaient plus bas, mais sur 20 ans pour payer. Ils ont apprêté ça, mon père, quand il s'est bâti sa deuxième maison, quand la famille a commencé à grandir, hein, puis s'est bâti une deuxième maison, puis il a emprunté de l'argent pour bâtir là, sa deuxième maison. Les autres, ceux qui faisaient des paiements de 30 piastres par année, ils ont gardé le terre. Puis ceux qui ont pris des paiements, des conditions à paiement plus haut, mais un temps plus court, ils n'ont pas pu arriver. Voyez-vous, rien se vendait dans ce temps-là. Il n'y avait presque pas de marché pour le lait, ni rien. Les femmes, il n'y avait pas de fromagerie. Ils faisaient le beurre, les femmes.
Je pense que Saint-Pierre, malgré qu'il y a encore beaucoup de monde qui demeure là, ça a changé pas mal.
Ah, oh, c'est changé pas mal, beaucoup changé.
Il y a bien des anciens qui sont partis.
Ah, hein. Oh, des anciens, c'est presque... Aujourd'hui, quand je lis les nouvelles là, de Saint-Pierre, C'est tout du monde nouveau, des gens, presque tout du monde nouveau. Des gens qui n'étaient pas là quand je suis parti, des gens.
Il y avait des places alentour de Saint-Pierre qui portaient des noms différents. Hein. Peut-être que je serais mieux de vous demander ça. Ça fait quand tu parlais du bois percé, là. Hein?
Oui, ben le bois percé, ça, c'était au. Ils appelaient ça, c'était un réserve sauvage qu'il y avait là.
Quelle sorte?
Des Indiens, ben, ils appelaient ça le bois percé. Il y avait deux. Il y en avait deux dans le temps en réserve indien, là. Il y en avait une sur la rivière Rouge, puis il y en avait une sur la rivière Roseau. Puis le bois parsi, ils n'ont fermé un, puis ils ont tout emmené sur rien qu'un après ça. Rien qu'un.
D'abord, c'est des sauteux.
Oui, c'est des sauteux. Oui, c'est des sauteux. Ils ont tout ramené sur le même réserve.
Savez-vous pourquoi ils appelaient ça le bois parsi?
Non, sans doute qu'il aurait dû avoir un bois qui était parsi. Il me semble que mon père m'avait conté que c'était. Il y avait un gros arbre qui avait été parsi par des pics-bois là, qui faisaient l'unis là-dedans. Là. Ben pour le différencier de l'autre, ben il l'appelait le réserve du bois percé.
Qu'est-ce que c'est qu'il appelait? C'était-tu le petit New York aussi?
Oui, ben c'est à Sartou aujourd'hui, ça. Il appelait ça New York. J'ai entendu parler de ça, moi, les habitants de la rivière Aura allaient chercher du bois de chauffage, là. C'était tout du beau gros tremble, ça. Puis le feu a passé là-dedans, puis tout ce tremble-là a séché. Puis c'était du beau gros tremble, puis le monde allait chercher du bois de chauffage là. Et puis ils appelaient ça New York. Mais quand ça s'est commencé à être habité par les Ukrainiennes, là, ils ont appelé ça Sartou, quand ils ont avoir un bureau de poste, parce que le pape à ce moment-là, c'était Sartou qui était pape.
Oui.
Ils ont appelé ça Sartou parce que le pape était. C'était son nom de famille, ça, Sartou.
C'est une bonne chose de savoir. Je sais qu'il y avait un pape qui s'appelait, sa famille était Sartou, mais je ne savais pas que Sartou c'était un autre
oui,
pape.
Oui, il avait été nommé par rapport au pape. Ils ont appelé ça Sartou. Puis ça s'appelle encore Sartou.
Oui. Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander aussi, c'est à propos des vieilles superstitions.
Oh,
les loups-garous, les feux follets.
Mon père et ma mère en parlaient bien, mais ils n'y croyaient plus des fois. Ils racontaient quoi, ce qui toutes sortes d'histoires que quand il y avait un feu follet qui cherchait à égarer un individu, quelque chose qui était perdu, là, qui avait voyé un petit feu, ben, il fallait qu'il mette un petit bois, casser un bois en croix, puis le mettre à terre, ou le planter à terre ou dans la neige, puis le feu follet s'amusait alentour de là, puis il empêchait de l'autre de s'écarter, qu'on trouvait son chemin. Il racontait, il ne croyait pas ça, mais il racontait ça, c'est bien qu'il est vu. Il disait, ben, quand il y avait un feu follet, il cherchait tout le temps à égarer l'homme. Alors, si tu coupais un bois en croix, puis tu le plantais dans la neige ou dans la terre, le feu follet se mettait à tourner alentour, et puis le gars, ben, pouvait s'en aller et retrouver son chemin. Un dicton, mais mon père et ma mère ne croyaient plus ça dans le temps.
Oui. Comment est-ce qu'ils faisaient pour ramener quelqu'un qui était loup-garou?
Je n'ai jamais entendu parler ça, moi. Non, mon père et ma mère n'ont jamais entendu parler.
Ils n'ont jamais raconté comment est-ce qu'ils faisaient?
Non.
Avez-vous entendu dire aussi déjà pour des gens qu'une journée, ils parlaient avec vous ici là, aujourd'hui, et puis demain, ou une semaine après, en parlant avec un autre, il vous disait qu'il avait vu ce gars-là à 100 000 de dollars la même journée qu'il vous avait parlé. Vous n'avez jamais entendu les
non,
vieux
médecins? Non, je n'ai jamais entendu parler de ça.
C'est du monde qui peut se projeter. Apparemment, ça c'est bien. On en trouve bien. On en trouve beaucoup qui connaissent ces histoires-là.
Oui, mais.
Racontées par
leur.
Je n'y croyais pas.
Mais
vous n'en avez jamais entendu parler?
Non, mon père n'a jamais parlé.
Il y avait un sort qui jetait aussi. Celui qui avait le sort, il venait à la bouche de travail.
Ah oui, ça, des sorts, j'ai bien entendu parler de ça. C'est bien. Puis, je m'avoue dire franchement, ma mère y croyait pas mal. Il y a des sorts qui étaient jetés. Surtout par les Indiens. Ils y croyaient. Ah, elle m'a bien raconté ben, des histoires, c'est bien, j'ai entendu raconter des histoires, que des sorts avaient été jetés par les Indiens même. Et puis. Elle avait l'air de croire.
Elle vous a jamais raconté des choses qui avaient arrivé quand même.
Oui.
Oui.
Elle m'a déjà raconté qu'une fois qu'il y avait un Indien, il était marié. Il y avait une femme. Puis c'était un bon chasseur. Puis il y avait une autre vieille, qu'elle aurait voulu qu'il prenne sa fille pour femme encore. Puis l'Indien lui disait, j'ai jamais eu l'idée d'avoir deux femmes. C'était pas mon idée, c'est bien d'avoir deux femmes. Et alors, la mère de celle qui voulait que... la mère de la fille qui aurait voulu qu'il marie sa fille, là, c'était une vieille qui était supposée de jeter des sorts. Ça a été reconnu de jeter des sorts. Puis l'Indien, là, c'était un bon chasseur. Il est parti à la chasse un jour, puis il a tiré sur un orignal. Puis quand il a relevé son fusil, il a entendu rouler la balle encore dans le canon de son fusil. La balle revenait. Puis il a tué l'orignal, puis il a entendu la balle revenir. Puis il a pensé tout de suite que c'était la vieille, la bonne femme là, qui avait fait ça. Fait qu'il a été trouvé l'orignal là. Il était tout plein de gale, l'orignal. Il n'y avait pas la grandeur du pouce, il n'y avait pas de la gale sur l'orignal. Puis il n'a jamais pu rien tuer après cet Indien-là. Puis il est venu tout plein de boutons, puis de gale. Il était toujours malade. Il poignait des padrilles au collet, au bandon des lièvres. Mais par son fusil, il ne pouvait plus jamais rien tuer. Puis ma mère dit qu'elle l'a vu, le sauvage-là, qui était galu de même. Puis il dit qu'il... c'était pas mon idée d'avoir deux femmes. Mais. Et puis il n'y a plus jamais rien tué. Il pognait du poisson dans la rivière, pognait des padrilles, des lièvres au collet. Et puis son arrière, ben, c'était pas mangeable.
Est-ce que vous avez eu connaissance aussi, au moment où je vous aurais raconté ça, qu'il y en a qui faisaient des petites galettes de cerises pilées, là. Et puis ça, c'était surtout donné à une fille pour la faire tomber en amour avec le gars, hein?
Ah, oh, j'ai bien entendu. Il n'y a pas bien des années encore, je n'ai pas entendu parler pour les petites galettes pilées, mais j'étais déjà en fête, moi. À Saint-Malo, le réserve indien qu'il y avait, là, ce roseau qu'on appelle aujourd'hui, là, il y avait une maîtresse d'école qui était engagée du département d'éducation pour aller faire l'école. Là. Puis il y avait... un Indien, là, il l'appelait Johnstone, l'Indien. Il a commencé à fréquenter la maîtresse. Puis la maîtresse, il a fait un peu de belle façon, mais elle n'avait pas l'idée de se marier, elle n'en riait. Ça brisait. Il s'est aperçu que la maîtresse en riait. Fait qu'il s'est retourné, puis un bon matin, il s'en allait sur le chemin, il a rencontré une petite fille qui s'en allait à l'école. Puis il a donné une blouse, une boîte en carton. Il y avait une blouse pour une femme là-dedans, pour une fille. Il dit à la petite fille, il dit, tu donneras ça à la maîtresse. Puis elle a donné la blouse à la maîtresse correcte. Puis là, la maîtresse a tombé en amour avec Johnstone. Puis lui, à cette heure, il ne faisait pas de cas de la maîtresse. Il n'en faisait pas de cas pantoute. Il n'a pas voulu aller, elle l'a fait demander, puis il n'a pas été. Puis elle est morte. Pas plein des années après. Elle a tombé en amour avec les Indiens, là, ils ont prétendu qu'ils avaient donné des médecines. Les vieux disaient dans ce temps qu'ils servaient des médecines. Mais en tous les cas, il n'a pas voulu faire de cas de la maîtresse. Ça. La maîtresse, elle l'aimait, ça. Et puis elle est morte quelques années après. Puis ça, je m'en rappelle de ça, moi. Je m'en rappelle, j'étais homme fait. Johnstone, je l'ai connu.
C'est vrai, ça?
Ah oui, Johnstone, la maîtresse a tombé en amour avec, après ça, qui a eu ce blouse-là, il a dit, tiens, tu donneras ça à la maîtresse. Mais il ne pouvait pas prouver qu'il n'y avait rien dedans. Il a envoyé un cadeau. Mais elle a tombé en amour avec la maîtresse, avec l'Indien après ça. Puis lui, l'Indien, me faisait l'indépendant. Il ne voulait pas.
Vous m'avez raconté la dernière fois, là, pour des anciens remèdes, hein?
Oui.
Les remèdes faits à la maison, là.
Oui.
Il y en avait un surtout avec une racine qui venait dans l'eau, là. Comment c'est que vous appeliez ça?
On appelait ça la belle angélique. La belle angélica. On la prenait dans l'eau, celle-là. C'était pour le rhume, celui-là. C'est pour la grippe, justement. Puis il y en avait un autre qu'on appelait le cachecrin d'amont. Ça, c'était pour une plaie. Quand on se faisait une plaie, se tailler d'un coup d'hache ou d'un coup de couteau, quelque chose, on râpait ça comme de la fleur, là. Puis on mettait ça dans la plaie, puis la plaie prenait, puis à mesure qu'elle guérissait, quelqu'un d'amont sortait. C'était le, au lieu des points de couture, c'était ça qui mettait quelqu'un d'amont. Puis ça, je l'ai vu, souvent. Je l'ai vu. C'était une racine assez grosse, puis il y avait comme des points noirs dedans. Puis il poussait dans l'eau. La racine, elle poussait dans l'eau, puis il sortait une feuille, une tige avec trois feuilles après. Puis les feuilles, eux autres, ils flottaient toujours sur l'eau. La feuille était à plat sur l'eau. Même. Puis la tige, vous suiviez la tige, là, puis vous arriviez à la racine, puis vous l'arrachiez dans l'eau.
Est-ce qu'il y avait une fleur jaune après ça?
J'ai pas vu, j'ai vu avec des feuilles, moi.
Comme un gros bouton.
Oui. En tous les cas, c'était de même. Il y avait trois feuilles sur l'eau, puis on suivait la tige, puis on arrivait à la racine, puis on l'arrachait, on la cassait, et puis on la coupait en tranches, puis on passait un fil à travers, puis on le faisait sécher, puis on s'en servait quand on avait besoin. On râpait ça comme de la fleur, comme...
Parlant
des remèdes.
On peut continuer avec les remèdes indiens. Il y en a d'autres que vous connaissiez.
Oui, il y avait le sang dragon que les femmes, c'était encore une racine, ça, que les femmes allaient cueillir.
Il y en a d'autres remèdes aussi, hein, comme le plantain, ces affaires-là.
Oui, vous avez connu ça, hein? Oui, j'ai vu le plantain, ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui, pour quelle maladie que c'était, ça. Mais le sang dragon, c'était pour les maladies de femmes. Les femmes allaient cueillir ça. Les vieilles femmes, ma mère et ma tante, se servaient de ça quand ils soignaient les femmes pour les maladies féminines, quelque chose. Mais j'ai vu la racine, par exemple. J'ai vu la racine.
Il y avait aussi un champignon qui servait. Hein? On trouvait dans un package. Là. Vous savez ce que ça veut dire, la veste de loup?
Ah oui, oui, oui. Ça, c'était surtout pour des dartes ou des plaies qu'on avait. Je m'en suis servi moi-même. Après qu'il était mûr, là, ça faisait comme une fleur, une farine brune. Et puis, si on avait une plaie, ben ça faisait sécher la plaie, ça faisait guérir la plaie.
Votre mère faisait-tu de l'onguent aussi des fois?
Non, elle ne faisait pas de l'onguent, mais elle faisait des tisanes, par exemple, avec toutes sortes de racines. Elle nous soignait avec ça, des tisanes. Elle avait toutes sortes de racines. Ça.
Vous ne vous rappelez pas des racines?
Non, je ne me rappelle pas toutes des noms. Ça. Elle en avait dans des sacs. Elle avait tout son sac à tomates, là. Puis toutes ces racines-là, différentes, toutes des petits sacs différents. Ça. Et chaque sac, elle savait quelle racine qu'il y avait. Elle appelait toujours ça son sac à tomates.
Elle ne se trompait pas de racines?
Non, elle ne se trompait pas de racines, non. Elle les connaissait, elle n'avait pas besoin de marquer le nom dessus. Elle les connaissait.
Avez-vous connaissance si vos parents, là, s'ils faisaient de la teinture des fois avec des écorces d'arbres?
Oui.
La teinture pour le linge, là.
Non, je n'ai pas connaissance, mais mes parents ne faisaient pas ça. Ils tannaient, ils passaient les peaux d'animaux pour faire le soulier de bœuf qu'il y avait là. Mais pour teindre le linge, j'ai pas connaissance que ma mère en faisait.
Vous rappelez-vous comment ce que c'est quelle sorte de recette qui servait pour tanner le cuir?
Oui, il y avait deux manières. Ils servaient de l'écorce de chêne pour faire le cuir brun. Puis ils servaient de l'écorce de saule pour faire le cuir rouge. On disait toujours d'essuyer de cuir rouge. L'essuyer de cuir rouge, ça c'était avec l'écorce de saule, des saules. Mais l'essuyer de cuir, le brun, c'était avec l'écorce de chêne. Ils taillaient ça tout par petits morceaux, par un petit morceau à peu près de 2-3 pouces carrés. Puis ils mettaient ça dans un auge, ce qui tenait l'eau. Ils mettaient la peau là-dedans, dans l'eau, puis toutes ces écorces-là en dessous puis en dessus. Puis ça faisait un liquide rouge, et puis après ça, quand le poil s'arrachait tout d'après la peau, là, le cuir était rouge. Mais il laissait tremper ça tant de jours, tant que le poil ne s'arrachait pas après.
Et puis ça faisait du... qu'est-ce que c'est qu'il faisait des souliers de bœuf avec? Ouais. Bon, Bon, mais maintenant, Monsieur Vermette, on va continuer. Là, on va vous demander une chanson à boire. Vous êtes un homme qui ne buvait pas, mais quand même, vous savez, ah, oui. Des chansons à boire.
Je ne m'en rappelle plus lesquelles je vais chanter.
C'était vraiment bon.
Du temps que mon papa vivait, toujours le bonhomme, il buvait de rien, il ne s'embarrassait. Il nous avait toujours bien appris à manger pigeons et perdrix et à bien se divertir avec nos amis. La bonne femme qui n'en pensait pas moins avait toujours la liesse que l'époux soit toujours bien remplie. Un jour, ma mère prise un pot étant vide, elle m'a dit, va-t'en grand ignorant, va me le remplir et viens t'en promptement. Moi qui n'étais point paresseux, qu'à mettre à boire victorieux, au lieu d'un coup, j'en prenais deux. Un jour, je dis à mon frère en riant, si tu voulais en faire autant, nous viderons ce poume dans un peu de temps. Quittons, quittons ces embarras, faisons la guerre aux Pays-Bas, pour moi je ne m'en soucie pas. Je ne crains pas ni armes ni pistolets pour brosser mon mousquet quand je suis à la table auprès d'un cabaret. Allons, allons chez le compère Simon, nous trouverons des saucissons, aussi du bon fromage gras. Nous trouverons des saucissons, du bon fromage gras. Mais c'est avec cela qu'on fait un bon repas. Et tout.
Merci, M. Vermette. Pourriez-vous nous dire le nom de cette chanson-là?
Non, je vous dis franchement, c'est bien, j'ai entendu chanter ça par les vieux quand ils prenaient un coup. Et puis, je ne sais pas quel nom qu'il y avait cette chanson-là. Je vous dis franchement.
Vous en aviez une autre chanson à boire, hein?
Ah, oh, ben, vous connaissez plus.
Vous m'en aviez mentionné une fois, là, vous saviez rien qu'un petit bout, c'était la coulée de quoi? C'est une chanson de Riel.
Oh, c'était à la coulée au saut, le plat, c'était une chanson cruelle. Mais je l'avais entendu chanter par chez mon beau-père, moi. Parce que mon deuxième beau-père, il était marié avec un des sœurs de Louis Riel, hein. Puis il chantait cette chanson-là. À la coulée au saut. Si je peux poigner. Attendez un peu, si je peux poigner. À la coulée au saut, le plate, un prêtre dirige ses pas, et nos civilisés, nos flattes. C'est tout ce que j'ai pu rappeler, moi, de. Eux autres, ils la chantaient, mais j'ai remarqué ça. Ils commençaient de même à la coulée au saut, le plate, un prêtre dirige ses pas, et nos civilisés, nos flattes.
Ça a été supposé avoir été composé
par Riel. Par Riel, oui. C'était d'un petit livret, je l'ai vu, d'un petit livret qui avait des poèmes, des chansons qu'il avait composées. Là. Eux autres, ils l'avaient, ce petit livre-là. Mais moi, je ne l'avais pas. Hein.
Avant qu'on commence à enregistrer, là, vous avez mentionné, mais vous avez chanté un petit bout de chanson que Dumont va chanter pour emmener Riel avec lui.
Hein. Ah, oui. Ça, quand il a parti, quand Dumont. C'est quand il y avait Dumas qui avait traversé avec eux autres. Dumas a traversé avec Dumont. Puis là, ils ont composé une chanson, ils ont demandé à Riel pour s'en aller, puis Riel n'a pas voulu s'en aller. Il dit, il avait l'idée de rester, là, lui, ça lui dit, il maltraite les métisses, puis quand ils mourront, ça, ils vont vous arrêter de vous maltraiter. Puis lui, c'était Dumas qui chantait cette chanson-là, ça. Arrive donc, je t'invite, profitons du bon temps pour un si long voyage. On est bien mieux à deux, on est bien mieux à deux. C'était une vieille chanson, ça, mais il avait pris. Mais moi, j'ai remarqué rien que ça, c'est bien qui chantait ça. C'est quand Dumas avait demandé à Riel de s'en aller avec eux autres, de retraverser au Minnesota, au Montana. Et Riel, ils ont fait composer une chanson là-dessus.
Avez-vous repensé à une autre chanson à boire? Il me semble que vous en aviez deux, ce fois-là. Je ne suis pas trop certain, mais il me semble qu'il y avait deux chansons.
Oh, il y avait...
Il y en a une qui avait bien épaté le père Lemieux, puis je pense que...
Pas entre Paris et Saint-Denis, non?
Je pense que oui. Il y a une brune, c'est ça?
Oui.
Entre Paris et Saint-Denis.
Il avait chanté ça, c'était une vieille chanson aussi. C'était un message que vous l'avez chanté. Entre Paris et Saint-Denis, entre Paris et Saint-Denis, j'ai rencontré la belle à la porte d'un cabaret. Je suis entré avec elle. Hôtesse, hôtesse, as-tu du vin blanc, le meilleur de ta cave? Quoique nous ayons point d'argent, nos volets seront des gages, des manteaux d'écarlate, pour faire des cotillons à vos jeunes gaillardes. Petits soldats, montez dans ma chambre la plus haute. Votre ouvrier des Allemandes, qu'ils ont toujours le verre en main pour vos versir à boire. Des Allemands, nous en voulons point. Des Allemands, nous en voulons point. Nous voulons des Françaises, qu'ils ont toujours le cœur à l'aise pour nous servir à boire. Si ce temps-là pouvait durer, on cesserait de travailler. Mais je vois que ça ne durera pas, car je vois là que ma bouteille qu'elle s'en va. On boit, on rit, on chante, c'est la bouteille qui nous réjouit du bon vin qu'elle nous donne. Excusez.
Merci, monsieur.
Il y en avait un autre, il était plus rough. C'était un buveur, c'est bien. Il chantait, lui, il disait, c'est bien. Comment est-ce qu'il a chanté, non? Buvons, buvons, mes chers amis, buvons. Ne perdons jamais la raison. C'est à force de boire qu'on perd la mémoire. Ne buvez point tant, vous vivez plus longtemps. Il n'y a rien dans le monde que jaillit plus que l'eau. Jaillit la boisson, vous le savez tous. Mais je n'aillis pas d'en prendre un petit coup. La moitié de mon verre ne jetterai pas à terre. Ne buvez point tant, vous vivrez plus longtemps. Il n'y a rien dans le monde que jaillit plus que l'eau. Si par malheur je vais dans l'enfer, j'attaquerai Lucifer. Un grand coup de sable parmi mes tous ces diables, je leur ferai voir que j'ai fait mon devoir. Il n'y a rien dans le monde que j'aille plus que l'eau.
Si par bonheur je vois dans les cieux, je rendrai grâce au bon Dieu pour chanter ses louanges avec mes tous ses anges. Pour le condamner à boire du matin jusqu'au soir, il n'y a rien dans le monde que jaillit plus que l'eau. Oh, ma bouteille, tu m'as fait plaisir d'avoir fait la ronde, n'a pas beaucoup baissé. Oh, ma bouteille, tu m'as fait plaisir d'avoir fait la ronde, revenir encore. C'est à force de boire qu'on perd la mémoire. Ne buvez point tant, yo vivrez plus longtemps. Puis à la fin de l'éveillé, qui n'a personne de sous.
Merci, merci, monsieur Vermette. Comment s'appelait cette chanson-là? Est-ce qu'il y a un
il chantait le vieux buveur. La chanson du vieux buveur.
Ça devait être un buveur correct. Vous n'êtes pas trop fatigué, hein?
Non,
parce que je ne veux pas vous fatiguer. Mais c'est vraiment bon, ces choses-là, vous savez. Comment est-ce des chansons?
Ça, c'est vieux, ça. La dernière chanson, là, c'est bien vieux, bien vieux. Chanson-là. Moi, je faisais d'autres, c'est... Ben, mais tout, c'est, avec tous ces diables, un grand coup de sable parmi mes tous ces diables. Mais s'il allait au ciel, il chante, mais d'abord qu'il devait en boire du matin jusqu'au soir.
Monsieur Vermette, vous avez plusieurs vieilles histoires, je crois, surtout d'histoires qui viennent des Indiens il y a longtemps. Hein.
Oui.
C'était peut-être un peu cru, mais aujourd'hui, c'est ça qui compte. Parce qu'on ne parlera pas de ces choses-là, la vie, des fois, c'est pas bien drôle. Hein. C'est ça qui m'impute.
Ah ben, il y avait un conte indien et c'était Chaque et Chioche. Il avait tué des canards, puis il les avait fait cuire dans la cendre chaude, puis il avait laissé rien que les pattes en dehors. Puis il avait dit, il s'est endormi, il était couché pour dormir, puis il avait dit à son trou de cul de veiller. Il avait dit à son trou de cul de veiller que les autres sauvages ne viennent pas le voler. Puis il s'est endormi, puis les autres sauvages sont venus, puis ils ont mangé les canards, mais ils ont planté les pattes dans la cendre encore. Avec. Ça fait quand il s'est réveillé, et il a vu qu'il n'y avait rien que les pattes des canards qui étaient rentrés dans la cendre. Ça fait quand il a vu ça, il a fait routir son trou de cul.
Pour le punir.
Pour le punir, oui. Puis naturellement, ça fait de la gale, ça. Puis après ça, ben, quand il avait faim, il s'y galait ça, puis il mange. Il s'en va, c'est ça. Pour punir. Quand il avait bien faim, ben, il se frottait derrière sur une roche, puis la gale restait, puis il mangeait ça. Puis lui, c'est un vieux compteur.
C'est vous qui avez compté aussi pour ce même gars-là que. Il y avait des yeux, puis ils avaient perdu dans le bois, ou il y avait un animal qu'ils avaient caché. Hein.
Non, je n'ai pas entendu parler. Oui. C'était des vieux qui comptaient ça, mais je n'ai pas entendu parler, c'est là, vraiment.
Ou bien non, une autre fois aussi, il y avait, on ne sait pas si c'était un Manitou, qui avait dit, par chez nous, il ne disait pas Walkie Chuck, c'était Walkie Chan. Hein.
Ah.
Il avait dit à Walkie Chan, si t'es capable de m'emmener quelque chose, je pourrais pas deviner ce que c'est, ben il t'a pas lui donné quelque chose. Hein. Fait qu'il avait fait rouler sa femme dans le miel sauvage, il avait pris ça dans la plume, puis il l'avait emmené à l'autre, puis l'autre, ben là qu'il dit ce que c'était, c'est un oiseau, non, c'était pas ça. Je peux-tu sentir ça, là, il l'a senti, c'est une chicoque. Non, c'était pas ça non plus, puis je me rappelle plus, j'étais bien jeune. Hein. Mais tu pensais peut-être le saviez, ça.
Non, j'avais pas entendu quoi, c'est ça. J'avais remarqué, celui-là, parce qu'il est vieux comme ça, mais il disait toujours chaque question,
Ben, nous autres, c'était tout bien que le gars. Le gars, c'était un métis montagnard, tout bien en montagnard.
Ah oui, oui.
La langue se ressemble un
peu. Ça ressemble, oui.
Sauter. Oui. C'est mort il y a bien longtemps, ce vieux Jean-Baptiste-là. Il n'y en a pas d'autres que vous sauriez?
Non, je n'en connais pas d'autres, vraiment, M. Tourneau, je n'en connais pas d'autres.
Pourtant, il y a d'autres choses. Les chansons, ça, il n'y en a plus. Je pense que c'est toi qui aviez chanté ce fois-là. Hein.
Oui,
c'est
que vous avez chanté.
Dans tous les cas, je vous remercie bien des fois.
Ah,
c'est bien, c'était bien plaisant. Puis, madame, vous ne devez pas chanter, vous?
Non.
Mais vous allez nous dire ce que c'est que vous êtes venu au monde, par exemple. Hein?
Ah, Saint-Malo.
Oui, puis votre nom de famille?
Carrière.
Et puis, êtes-vous une frère d'Alphonse Carrière? Une sœur, vous dites.
Alphonse.
Il est marié avec...
Dolly de Charlet.
C'est vous combien de chansons qu'on a d'elle?
Combien?
28. Qu'elle a enregistré là-dessus.
Oh!
Une chanson.
Ah ouais, je sais
qu'elle chante bien. Il y en a une en sauteux pendant la guerre, puis les autres sont en français.
Mm-hmm.
Vous avez été à l'école là?
Non, je suis venue à la broquerie. J'ai déménagé à la broquerie quand j'avais à peu près 8 ans, je pense. J'ai commencé l'école à la broquerie.
Vous avez été jusqu'à quel grade?
4.
Quel âge vous avez maintenant?
79.
Et puis, c'est votre troisième mari, vous aussi, hein?
Oui.
Oui.
Et puis, je vais avoir 96 d'août.
Vous avez une sœur qui demeure ici, Mme Boissineau. Hein?
Oui.
Vous ne pourrez pas nous chanter une petite chanson, là? Juste un petit bout. Quelque chose de bien simple, vous savez, qui n'est pas trop difficile. Oh, mais vous en savez, vous savez que votre sœur...
Oui, c'est la celle que je te disais, là. C'est une vieille chanson, ça. J'ai des emprunts à faire dans la ville de Paris, là. J'ai des emprunts à faire. Je me suis mis arrêté, c'était pour lui parler, c'était pour lui demander.
C'est mieux, la chanson.
Ah, mais c'est bon, ça. C'est bon. Oui. Chante ça donc, madame. Dans la ville de Paris, tu la connais, je crois. Oui, avant la chanter. Madame Vermette va maintenant nous chanter 20 ans, 20 ans, c'est ça qui est le titre de chanson.
Il y a des chansons qui veulent là-dessus.
Je sais, mais j'en sais pas d'autres.
Mais vous chantez celle-là, vous chantez celle-là. Oui, c'est une belle.
Vingt ans, vingt ans, c'est le bel âge où tout l'amour peut faire plaisir. Là où l'on marche avec courage, les yeux fixés sur l'avenir. Avec ivresse que je respire le doux parfum du gai printemps. Oh mes amis, laissez-moi vivre, c'est aujourd'hui que j'ai 20 ans. J'ai vu fleurir les roses, d'ombre d'épines dans les buissons, dans le bois la fleur colose, dans le boulot chante le pinson. Avec ivresse que je respire le doux parfum du gai printemps. Oh mes amis, laissez-moi vivre, c'est aujourd'hui que j'ai 20 ans. Excusez-le.
Monsieur Vermette, vous avez toutes sortes de recettes ben, que vous rappelez quand vous étiez jeune, que votre mère faisait. Là.
Ah oui.
Y en a-t-il une en particulier là, que vous pensez?
Oui, ben il y avait, elle faisait du pemmican. C'était... Après qu'elle avait fait ses boucheries, il faisait fondre la graisse, puis les gourdons, là, elle les gardait. Puis après ça, ben, elle mettait des... Mais dans le temps, elle avait des poires sèches, elle avait pas... Elle mettait des poires sèches, puis des biscuits au soda, puis du sucre brun. Puis elle passait ça au moulin, elle avait 20 moulins, elle passait ça au moulin. Puis elle paquetait ça, puis après ça, on coupait ça en tranches. Nous autres, on n'avait plus de poires sèches, on mettait des corinthes à la place. Et puis on paquetait, on passait ça tout au moulin, et puis on paquetait ça, puis ça venait, avec les biscuits au soda, ça venait dur. Pas dur trop, là, mais pour qu'on puisse couper tout en tranches. Puis on a, c'était le pemmican seulement qu'on n'avait pas le buffalo comme on avait dans le temps. On mettait des gourdons à la place.
Vous avez mentionné, là, tout à l'heure, des petites poires sèches, là, les saskatoons. Comment est-ce qu'ils faisaient sécher ça?
Ah ben, les vieilles les ramassaient puis les étendaient. Ordinairement, s'il y avait une bâtisse à couverture plate, là, ou bien donc une place où il n'y avait pas d'animaux ni poules, ils tendaient un drap, puis ils tendaient les poires dessus. Puis au soleil, ils séchaient, là. Puis ils les reviraient de temps en temps. Puis quand ils étaient sèches, c'était pareil comme du corinthe. Puis quand on les mangeait, ben, c'était pareil comme si... On les faisait tremper, puis ils regonflaient. Ils regonflaient encore. Quand on les faisait tremper, ils regonflaient.
C'est à peu près le seul fruit sauvage là, qu'il y avait moyen de conserver comme ça, hein, en train
ouais,
de sécher.
Oui, puis le cerise à grappe pilé. Il pilait le cerise à grappe, ce qu'il appelle tchoukcheré, là. Le grappe, il les pilait, puis il les mettait en petites briques carrées, puis il les faisait sécher au soleil, pareil. Et puis, il s'en servait dans le pemmican, ça aussi, il mettait ça. Puis en hiver, ben, il pouvait faire du vin avec ça aussi. Il a trempé ça, puis ça faisait un beau, belle couleur de vin, là, une belle couleur brun, là.
Avec le goût des noyaux.
Là, avec le goût des noyaux, et avec un petit brin de brandy dedans, ben, c'était encore bien mieux.
Madame Vermette va nous chanter une autre chanson. Qu'est-ce que titre votre chanson, là, Madame Vermette?
Et quand j'étais enfant. Et quand j'étais enfant, je croyais que la vie était un long sentier, tout parfumé de fleurs, mais mon rêve fut bien court de la vôtre feuille. Et j'ai connu trop tard le doux parfum des fleurs. Dans un étroit chemin, au fond du cimetière, un soir avec mon père, nous blandons une croix, j'étais vêtu de noir. Je n'avais plus de mère, et là c'est j'ai pleuré pour la première fois. J'avais mis dans les mains d'une jolie maîtresse mes rêves d'avenir, mon cœur et mes 20 ans. Ce qu'il restait à moi, le flot de la tendresse. À mon retour, hélas, elle est morte au printemps. Dans son baiser d'adieu, mon âme s'est brisée. Lorsqu'elle expirait ses jours dans mes bras, mes yeux en sont voilés d'une aimée sincère. Et là, si je pleurais pour la dernière fois, c'est tout.
Merci, Madame Vermette. C'est bien joli. Monsieur Vermette va nous chanter une autre chanson au boire. On ne veut pas que vous pensiez, par exemple, que Monsieur Vermette, c'était un buveur. Il a pris ça de... pas de ses parents, des étrangers.
Oui. Prenons un coup, prenons à deux, à la santé de ses amoureux, à la santé de celui qui mange rien. Cher ami, boivons, caressons la bouteille. Celui qui la caressera, de ce bon vin qui l'emboira, de ce bon vin, le meilleur de la chave, cher ami, buvons, caressons la bouteille. Comment veux-tu que je puisse chanter, de dans un bois fort éloigné, de dans un bois couvert des feuillages, j'ai grand peur des loups qui manient les charnages.
C'était un vieux métis qui chantait ça. Puis j'ai appris ça de lui. Je lui chantais comme il chantait lui aussi.
Merci beaucoup, c'est vraiment bon. Madame Vermette, vous allez nous chanter une autre chanson. Qu'est-ce qui est le titre de celle-là?
Si j'avais quelque part dans ce monde.
C'est bien ça.
Si j'avais quelque part dans ce monde, quelqu'un qui m'aimerait un peu, ma misère serait moins profonde, car toute seule on est si malheureux. J'avais autrefois un ami, plus beau cent fois que le jour, un ami jaloux me l'a ravi. Je l'ai tué pour venger mon amour. Enchaîné presque au fond de la terre, tout dans un sombre cachot, oui, je pleure en faisant ma prière, mais personne n'entend mes sanglots. Si je vais comme un oiseau des ailes, de ma prison je pourrais m'enfuir et j'irai dans les bras de mon cher, libre enfin, je m'en irai mourir.
Merci beaucoup, c'est bien ça.